Bienvenue sur Écoute Voyageuse. Je suis Corinne Delaunay et je vous emmène explorer la beauté des mondes, visibles et invisibles. Vous êtes prêts? Allez, on embarque! Bienvenue dans un épisode sur un monde, sur des mondes. Comme dirait Tigrane, derrière le voile d'un monde, vous vous retrouvez dans des mondes. C'est un voyage au cœur de la psyché, c'est un voyage sur le processus de création. Tigrane, il est immense, avec une voix profonde, il a un regard perçant. Et ce jour-là, il était pieds nus dans l'herbe, au pied de cet arbre magnifique. On a parlé d'Arménie, on a parlé aussi de la Mongolie. Donc il a écrit un conte initiatique en 3 tomes, et on va partir avec lui du côté de ces terres sacrées. Bonjour Tigrane.
Bonjour cher ami.
On est chez Peggy Reboul là, pour une journée champêtre, on va dire, pour les 50 ans de Peggy. Je suis avec toi donc au pied d'un arbre. Tu nous as emmené en voyage dans tes 2 premiers tomes de ton conte initiatique. J'aimerais avant qu'on en parle, que tu nous dises qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire, parce que tu es fondateur, cofondateur de la maison d'édition Mama Édition, donc je suppose que tu es passionné par les livres depuis toujours, mais qu'est-ce qui t'a poussé là, à écrire ce conte?
Ça m'est tombé dessus en fait. Je pourrais pas dire que j'en ai pris la décision moi-même. Pour être honnête, c'est plus le sentiment d'être visité. Visité par une voix, visité par une image, puis des images, des odeurs, des mouvements, des visages, des noms, des sons, des phrases. Et puis finalement, des phrases de plus en plus étonnantes qui font qu'on se dit « Non, bon, je descends de mon hamac, je vais chercher un stylo et je m'exécute. »
Tu avais déjà écrit avant d'autres ouvrages ?
Oui, j'ai publié quelques ouvrages, mais c'était plutôt il y a une vingtaine et une trentaine d'années.
Et là, on peut dire que tes inspirations sont venues aussi de tes auteurs, autrices, que tu as aussi édités ?
On pourrait imaginer ça parce qu'il y a des thèmes, bien sûr, communs et on attire à soi parfois ce qui nous ressemble. Donc, j'ai eu certaines pratiques, par exemple, dans le chamanisme, à la fois... j'ai une famille d'origine arménienne du côté de ma mère et donc avec également des lignées mongoles qui sont passées par l'Arménie en bon envahisseur qu'ils étaient. D'un autre côté, un œil extérieur qui ne saurait pas que j'ai eu des années de pratique ici et là, dans différents pays, sur différents continents, avec différentes traditions, différentes personnes. Quelqu'un qui ne saurait pas que ma mère était arménienne et que mon arrière-grand-père ressemblait à un mongol pourrait se dire « Ah bah oui, il a publié des livres sur le chamanisme, il a publié des livres sur le chamanisme mongol. » Et donc après le côté éditeur de sciences humaines, il y a le côté auteur de fiction. Mais il y a également ces trames personnelles de cette vie-ci et de vie d'avant, puisque avec ces ancêtres-là, on retouche à la Mongolie, évidemment.
Tu es parti là-bas, en Mongolie, tu étais sur les traces de tes racines ?
Pas du tout, et d'ailleurs, mon grand-père maternel m'avait fait en quelque sorte promettre de ne pas y aller, tant il y a eu une époque de splendeur pour lui, pour eux, pas seulement l'époque d'un royaume historique ou de Tigrane le Grand, mais également ce qu'il a connu lui avant les aléas de l'histoire, avant les aléas de l'histoire arménienne qui est parfois très particulière. Et le contraste entre la magnificence de cette culture, une culture chrétienne qui a adopté le christianisme comme religion d'État avant même le concile. Donc ça a été le premier pays au monde historiquement à adopter le christianisme comme religion d'État, sans aucun schisme. Donc, mais c'est également le pays, d'un point de vue plus mythique, dans l'Ancien Testament, de l'Arche de Noé, du père d'une humanité nouvelle. Donc après le déluge, c'est là que l'Arche de Noé se pose et c'est là que l'humanité recommence. Donc c'est quelque chose de très riche, pas seulement dans l'histoire chrétienne, les églises là-bas qui sont magnifiques, les sculptures, la musique, l'architecture, la poésie, évidemment le mont Ararat, ce volcan de plusieurs milliers de mètres, et cette montagne enneigée qui compte aussi en fait de l'art pré-chrétien qui est très énigmatique, qui peut aller de pierres levées à des spirales et des cercles d'archéologie avant l'ère chrétienne, qui aujourd'hui encore font beaucoup réfléchir au sens de ces sortes peut-être de lieux de rituel. D'autres pensent à des observatoires des étoiles de par la position particulière de certains trous dans certaines pierres levées qui correspondent à certaines positions extrêmement précises. Bref, il y a tout un passé, non pas d'une Arménie, mais de plusieurs Arménies, qui va encore plus loin que l'époque du chamanisme mongol et qui touche même à des sculptures là-bas qui ressemblent étrangement à des grands visages de géants, un petit peu comme ceux de l'île de Pâques.
Donc ton grand-père t'emmenait par ses contes, par ses histoires avec lui en Arménie par la pensée, ou c'est toi qui as été creusé ça, ou ta mère ?
C'est plutôt moi qui me suis immergé dans la culture, par l'image, par le texte, etc. Lui était plutôt pour, comme je disais, faire promettre de ne pas y aller, parce que le contraste avec ce qui s'en est suivi était tel qu'il ne voulait pas que l'on voit l'après et tout ce qu'il y a eu depuis. Et donc, il était attaché à préserver cette image qui résonne beaucoup plus avec un passé magnifique, une heure de gloire, voire une ancienne civilisation beaucoup plus liée à la mythologie, beaucoup plus liée à des énigmes qui ne sont toujours pas expliquées aujourd'hui, mais qui sont bien là, dans la pierre et dans l'agencement de ces pierres, autour du mont Ararat notamment.
Est-ce que tu vas y aller ?
Je pense que ma sœur va faire en sorte que j'y aille.
Pourquoi ta sœur est là-bas ?
Non, mais elle y a déjà été. Et l'arménité coule assez fort chez ma demi-sœur utérine, comme on dit, c'est-à-dire ma sœur du côté de ma mère.
Alors pourquoi t'as pas mis ton compte sur ces terres arméniennes ?
J'ai pas décidé grand-chose. Pour parler franchement, je suis obligé d'avoir l'humilité de reconnaître que des choses viennent à vous tombent dessus, que c'est un très grand bonheur, que c'est parfois totalement vain de croire que « Ah oui, mais ce serait bien si, et ce serait bien... » Non, parce que cette version originale est probablement ce que vous pouvez faire de mieux. Et donc, il y a des livres où vous écrivez, vous réfléchissez beaucoup, vous documentez, vous travaillez, vous retournez vos phrases dans un sens et dans l'autre des dizaines de fois. Et puis, il y a d'autres livres qui se passent totalement différemment. Il y a d'autres livres qui sont comme des rivières qui coulent à travers vous, qui viennent comme elles sont. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de ne rien faire. Et moins vous en faites, mieux c'est.
Donc en combien de temps tu l'as écrit ?
Ça se compte en semaines. Ça a été extrêmement rapide, fluide, sans retour en arrière, sans hésitation. Donc c'est ce type d'écriture-là pour lesquelles on ne peut que remercier, être plein de gratitude et profiter de la chevauchée.
C'est vrai, c'est un long voyage. Enfin, c'est un voyage sur des terres intérieures. Le narrateur n'a pas de nom. On peut y voir, bien sûr, une partie de toi-même. D'où il vient, ce narrateur ?
Là, on parle du personnage,
oui,
du livre.
On parle du personnage, tout à fait.
C'est un Parisien qui, après être parti en Mongolie, pensait-il, pour 2 semaines, comme on part avec ces programmes d'échange, où vous aidez, par exemple, au bétail, vous aidez au yak, aux moutons, aux chèvres, aux chevaux, et en Mongolie, pourquoi pas aux chameaux aussi. En échange, vous avez le gîte, le manger, et puis petit à petit, il se passe des choses qui vont au-delà de ça. Et ce personnage qui est parti là-bas entre 20 et 30 ans et qui croyait n'y passer que 2 semaines, bah, finalement, sa vie bascule. Sa vie bascule parce que, contre toute attente, alors qu'il n'est pas originaire de Mongolie, il sent, pressent, qu'il y a quelque chose de plus là-bas. Il y a quelque chose de plus qu'il n'envisage pas forcément précisément. Mais en revanche, il y a une grand-mère dans ce village qui, elle, le voit. Elle le voit immédiatement Et une fois qu'elle l'a vu, cette grand-mère d'adoption, on pourrait dire, qui va le prendre sous son aile, comme on adopte un étranger, un petit enfant, son petit enfant, son petit-fils d'adoption. Elle va aussi devenir sa mère spirituelle, en fait, parce qu'elle est chamane et parce qu'elle l'a perçue dès le premier regard. Donc, pour elle, il n'y a pas tellement d'hésitation. Il a son libre arbitre, mais bien sûr, elle l'invite et elle lui fait clairement sentir à quel point sa place est là-bas, à quel point sa famille d'âme est là-bas, à quel point sa vocation, son rôle, ses futurs pouvoirs sont là-bas. Et donc, lui ne peut qu'aller dans ce sens-là.
Oui, parce que là, tu parles de libre arbitre, mais on l'a bien vu aussi avec Brigitte Pierza. Il n'y a pas forcément de libre arbitre dans le sens où la vie te pousse et si tu n'acceptes pas ce rôle qu'on t'envoie, tu peux mourir à toi-même.
Oui, il y a effectivement une importance, une responsabilité et au-delà des mots, une dimension sacrée. Et cette dimension sacrée, on ne badine pas avec.
Donc c'est ce qu'on voit aussi au niveau de ton héros, on peut dire, du conte. Il n'a pas trop le choix. Il doit avancer vers tout ce que la vie lui offre. Bon, il prend plutôt bien.
Oui, c'est peut-être un profil où, au-delà de la confiance, qui n'évite pas parfois certains troubles, au-delà de la force, de la puissance, du magnétisme, de certaines pratiques, du chamanisme, de certaines transmissions, rituels, cérémonies. Néanmoins, parfois, on doit aussi avancer dans l'inconnu, et avancer dans l'inconnu, ça peut vouloir dire traverser certains gouffres, ça peut vouloir dire faire face à certains démons, les vôtres, mais pas forcément que les vôtres, d'ailleurs, et en ressortir grandi, y survivre. Donc, pour reprendre ce terme de le refuser, même si on a le libre arbitre, ça pourrait être dangereux, même très dangereux. Oui, il y a cette dimension-là. Et c'est là qu'intervient la foi. Parce que ce n'est plus une question de confiance. C'est vraiment une question de foi. C'est-à-dire que c'est entre vous et la vie dans ces moments-là. Personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut vous aider autant que vous-même. C'est vous que ça regarde au plus profond de vous-même. Et même si tous les signes sont là, même si c'est pour un mieux, certains de ces passages réclament une assise particulière et plus que de la confiance.
Ça, tu l'as traversé. Tu as traversé des zones d'ombre dans ta vie. Quand tu as créé Mama Édition, on peut dire que ce n'était pas au moment où tout ce qui était ésotérisme, chamanisme, spiritualité n'était pas encore en France. C'était encore une partie assez cachée où on n'avait pas trop envie d'en parler. Donc toi, tu as pris ce pari. Et est-ce qu'avant, cette démarche a été traversée aussi par des moments initiatiques très forts dans ta vie ? Donc tu nous as parlé de l'Arménie, qui fait partie de ton sang, mais tu as été aussi sur d'autres continents, tu as été dans cette recherche ?
Alors moi, je dirais que les deux endroits où je ne suis pas allé, finalement, c'est la Mongolie et l'Arménie, comme par hasard. Et il y a quelque chose parfois d'impérieux dans une forme de puissance créatrice ou d'inspiration qui peut vous prendre par surprise, qui peut faire voler en éclats vos habitudes, vos préceptes, ce que vous imaginez. Et quand vous avez vous-même pratiqué certaines formes d'écriture ou certaines relations à des expériences vécues, des géographies où vous êtes allé, des pays que vous avez visités, des peuples avec lesquels vous avez travaillé, des traditions, des cultures que vous avez suivies. Il y a une adéquation entre cette expérience de première main et ce que vous pourriez en dire. Ici, nous sommes dans des contes initiatiques où même s'il y a un entrelacement intime avec l'autobiographie, en fait, avec sa propre vie, avec... il y a également une forme d'inspiration pour la fiction qui, là, avait ce côté impérieux de dire « lâche tout ». Lâche ce que tu sais, lâche ce que tu crois savoir, lâche les endroits que tu as visités, les gens que tu as connus, les rites de passage que tu as traversés, les transmissions que tu as reçues, les enseignements que tu as suivis, lâche tout ça. Et va là où tu n'as jamais été, où tu n'as pas la moindre prétention de pouvoir dire « et ça c'était comme ci, et ça c'était comme ça » ailleurs que dans ta psyché. Ouvre les portes de l'imagination, sois totalement libre de façon à pouvoir non pas seulement suivre une réalité géographique, temporelle, mais au contraire suivre une inspiration et ouvrir grand les ailes de choses qui sont plus des souvenirs peut-être d'une autre vie ou d'autres dimensions, des souvenirs qui vont plonger dans certaines formes de mémoire collective, des souvenirs qui vont plonger dans une lignée des générations avant, des ancêtres, d'autres aspects de vous-même, d'autres âges de votre âme, peut-être véhiculés dans d'autres corps avec d'autres inclinaisons spirituelles, qui deviennent plus importantes que tel ou tel ou tel voyage que vous avez fait. C'est autre chose. C'est pour ça que ça s'appelle aussi un conte.
Tu l'as canalisé alors, ce livre ?
Alors, il y a l'essentiel, je dirais, l'essentiel, je l'ai canalisé, si on peut dire. Mais même ça, ça me paraît presque trop prétentieux. C'est-à-dire que je dirais plutôt que l'essentiel, je l'ai reçu. Tenter de le suivre le mieux que j'ai pu. Et qu'à la fois, tout ce qui est souvenir d'enfance, autobiographique, flashback, mémoire, c'est verbatim exactement ce qui m'est arrivé, là où ça m'est arrivé, avec les personnes avec lesquelles ça m'est arrivé, que ce soit ma mère, mon père, ma sœur, etc. Donc après, il y a ce mélange et ce tissage qui correspond, on pourrait dire, à deux mondes, un monde très réel et un monde... qui va au-delà des frontières du visible et qui parfois finit par être pour vous encore plus réel que le monde réel. C'est-à-dire que dans cet invisible, il y a aussi une forme d'hyper-réalité. Et cette hyper-réalité, on pourrait dire qu'elle est multidimensionnelle. Donc si par nature, au-delà du visible, il y a quelque chose qui vous paraît encore plus fort, sensé, parfois précis, beau, agissant que la réalité, et que ce monde-là, c'est ces mondes-là, grâce en partie à l'imagination et au lâcher-prise, et grâce à certaines pratiques et une certaine façon d'avancer en chemin, finalement, derrière le voile d'un monde, vous vous retrouvez dans des mondes.
Là, j'ai presque l'impression que tu me parles de métaverse. Et donc, ce personnage, t'es pas prêt de le lâcher. Ce personnage du conte.
Est-ce que je pourrais me lâcher moi-même ?
Et oui, ça fait partie de toi. Voilà. Ça,
donc, c'est on se lâche par moment.
Oui, on se met pas.
Pour mieux se retrouver. Oui. Et plus on se lâche, plus il faut rester ancré.
Alors, comment tu passes par tes phases d'ancrage ?
En parlant aujourd'hui avec toi, les pieds nus dans l'herbe, et en ayant la voûte plantaire aimantée au sol de cet arbre magnifique.
Deux livres ont été publiés, le troisième arrive au mois de juin.
Un livre a été publié le 12 avril, le deuxième arrivera le 24 mai, et le troisième de la trilogie le 15 juin.
Et il y aura une suite certainement ?
Oui, il se pourrait qu'il y ait une suite, oui. Il se pourrait qu'il y ait une autre trilogie après cette première trilogie.
Et ce voyage que tu as fait avec ces personnages dans ce conte, est-ce que tu as encore envie de voyager ? Toi, tu as quand même envie d'y aller en Mongolie maintenant que tu l'as décrite, que tu l'as vécue ?
Plus que jamais. Plus que jamais. Et à la fois, il y a quelque chose d'étrange, d'apparemment paradoxal, mais de très fort par rapport à l'émotion, l'attraction, l'amour qu'on peut avoir à distance pour quelqu'un ou quelque chose, pour un endroit, pour certains espaces, que de s'en tenir à distance un certain temps. Et ça permet de déployer différentes approches qui peuvent paraître plus lentes, peut-être moins hâtives, mais qui à la fois ouvrent certains espaces qui rendent la première expérience par nature différente. Donc oui, j'ai envie d'y aller plus que jamais. J'ai aussi envie d'aller en Arménie d'ailleurs. Et oui, par le passé, je me suis plutôt avancé sur ces territoires en compagnie ou dans des pays qui sont l'Afrique, l'Europe du Nord, Russie, Indonésie, Bali, Amérique du Nord, Amérique du Sud, des chamans ou des guérisseurs, ou des, etc., de ces différentes traditions. Donc en fait, un petit peu de partout, Thaïlande, etc., sauf la Mongolie.
Tu penses qu'il y a quelque chose qui t'attend là-bas ?
Oui.
En Mongolie et en Arménie ?
Oui.
Est-ce que c'est l'amour qui t'attend là-bas ?
Il n'y a rien de mieux que l'amour. L'amour, s'il nous attend quelque part, alors c'est peut-être aussi qu'il nous attend partout. Quelque part en la personne d'un individu ou d'un lieu ou d'une partie de votre destin. Mais cet amour-là, en soi, partout, comme la conscience, c'est peut-être ce sentiment, cette émotion, cette perception, cet état d'être qui transcende les frontières, pas seulement géographiques, mais aussi les frontières de notre propre ego, de notre individu, pour toucher à autre chose que la dimension à laquelle on est habitué de façon ordinaire. Alors, qu'est-ce qui m'attend là-bas ? Je n'en sais rien, et je suis ravi de ne rien savoir. Le sentiment que des choses attendent, ici et là, oui, bien sûr, il est fort. Et il est beaucoup plus fort maintenant dans ces régions du monde qu'il ne l'a été même par le passé dans les Amériques, en Afrique ou dans d'autres parties de l'Asie ou de l'Europe. Donc c'est intriguant et c'est excitant, bien sûr.
C'est un peu comme si ton âme était venue te parler et que tu avais assez cheminé pour atteindre ce... Ah, c'est qui parle ? C'est ma sandalousse.
Le cheval a l'air content avec l'âme qui chevauche entre les mondes pour venir nous parler ici et nous faire entrevoir là-bas.
Oui, parce qu'on parle de chevaux, de chevauchés, fantastique aussi dans tes contes.
Oui, et puis le cheval, en plus d'être un animal spécial, mais ne le sont-ils point tous ? Le cheval, c'est aussi un véhicule entre les mondes, c'est aussi un animal de pouvoir particulier, c'est aussi une monture particulière, c'est aussi un esprit qui est au-delà du cheval dans certains instruments, comme le tambour, qui peut être plus qu'un instrument de musique, comme la vielle cheval, la morinhur mongole, qui peut être plus qu'un luth, qu'une vielle archer. Et donc le cheval est présent et, me semble-t-il, reste présent à travers moi, aussi bien dans le monde réel que de l'autre côté du voile.
Et tu es musicien aussi, chanteur.
J'ai été musicien, oui. j'ai chanté, j'ai dirigé des chœurs, enfants, adultes. Je me suis occupé de musique classique, de musique sacrée, de musique profane, de chant classique. J'étais baryton. Après avoir été, avant la mue, sopraniste, en fait. Et donc, opéra, leader, musique sacrée, etc., musicologie, enfin, tout ce monde-là était un peu mon univers avant.
Ouais, donc le sacré a toujours fait partie de ta vie, quelle que soit la forme.
Y aurait-il une vie sinon ?
Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter ?
Le plaisir d'avoir pu partager ces quelques vues avec toi et de le faire en pleine nature. Le jour anniversaire des 50 ans de notre amie et autrice Peggy Reboul, on parlait de cheval. Et c'est la couverture de son livre Conscience animale avec ce regard de cheval et cet œil dans lequel on voit l'humain se refléter. C'est quelque chose qui boucle la boucle avec certaines pages des premiers chapitres du premier volume de cette trilogie chamane. Ouais.
On a hâte en tout cas de lire la suite et que tu nous emmènes vers d'autres contrées, imaginaires ou pas. Merci, merci infiniment.
Merci infiniment à toi.
Merci pour votre écoute. Vous avez aimé ? Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. À très vite sur Écoute Voyageuse.